Bonjour tout le monde et bienvenue dans la saison 2 d'Amis, un podcast dédié à la redécouverte d'œuvres qui ont marqué la pop culture et notre vie. Après la cultissime Friends, pour cette nouvelle saison, on part à la découverte d'une autre sitcom loufoque et bon enfant des années 90, Twin Peaks.
Waouh, je pensais pas que c'était ça.
Bah, tu vas pas être déçue du voyage.
Moi, c'est Marie et je n'ai jamais regardé Twin Peaks. Pire, je n'ai jamais rien vu de David Lynch. Après avoir longtemps vécu dans le silence et la honte, j'ai accepté de regarder la série pour la première fois par amitié et parce qu'Anaïs avait regardé 10 saisons de Friends, donc j'ai pas trop le choix. Maintenant, je dois faire tout ce qu'elle me dit.
C'est clair. Et moi, c'est Anaïs. Et contrairement à Marie, je suis une énorme fan de Twin Peaks. En fait, cette série, c'est un peu mon Friends à moi. Je l'ai découverte quand j'étais enfant. Je sais, c'est bizarre.
Ça explique beaucoup de choses.
Et depuis, je l'ai vue et revue de nombreuses fois. Je sais que c'est une série télé qui peut paraître un peu intimidante. Et j'avoue que je suis terrifiée à l'idée que Marie fasse un rejet total et m'en veuille pour toujours après cette expérience. Mais que ça lui plaise ou non, elle est désormais contrainte de regarder les 48 épisodes de Twin Peaks pour ce podcast.
Super.
Au moment où on enregistre cet épisode, Marie, tu n'as encore rien vu de Twin Peaks. Tu es totalement vierge et tu t'apprêtes à voir le pilote pour la première fois. Alors avant ça, j'avais envie de tester un petit peu tes connaissances, si tu en as, hein, sur la série.
Ok.
Alors déjà, est-ce que tu peux définir Twin Peaks en trois mots ?
Alors... Premier mot, c'est perché.
Okay.
Enfin, c'est étrange, bizarre, quoi. Ensuite, pluvieux.
Ok.
Et snob, désolé. Mais je pense, enfin, c'est vraiment à ça que j'associe Twin Peaks.
Ok, j'espère que ton avis changera en cours de route.
Je dis pas que ça allait forcément, je dis que je l'associe avec un public d'amateurs et de fans assez snob.
Mmh.
Voilà.
Okay.
Et bon, je sens que je vais m'aliéner une grosse partie des gens qui vont écouter ce podcast, mais désolé.
Donc, tu penses que je suis snob aussi ?
Non, mais je pense qu'il y a un discours snob autour de la série.
Ah ouais.
Ouais, bon, on va voir.
Ok. Hein. Pourquoi t'as jamais regardé Twin Peaks ?
Bah, déjà, en partie à cause de ça, je pense que j'ai un côté un peu contrariant que j'aime pas forcément beaucoup chez moi, mais qui existe, je dois l'admettre.
Qui est inévitable.
Voilà. Mais quand tout le monde me prend la tête avec un truc qui est culte et me dit qu'il faut absolument que je le voie, mon réflexe, c'est un peu de ne pas le voir, en fait. Et donc, je n'ai jamais vu Twin Peaks un peu à cause de ça. Et aussi parce que, comme tu l'as dit, c'est une œuvre intimidante qui ne correspond pas forcément à un genre que je cherche dans la pop culture en général. J'ai tendance à adorer les comédies et j'associe beaucoup Twin Peaks à quelque chose d'assez existentiel, un peu absurde. Et ce n'est pas forcément ce genre d'œuvre qui m'attire naturellement. Quand je les regarde, je peux les apprécier, mais ce n'est pas vraiment vers ça que je me tourne en règle générale. J'aime bien... les choses plus réalistes ou assez comiques en règle générale ou dramatiques mais réalistes. Et donc, je pense que c'est aussi pour ça. Et il y a un dernier niveau où il faut que j'admette, c'est un peu comme quand j'étudiais l'écho à Sciences Po où j'ai jamais passé 10 minutes pour relire mes cours parce que je comprenais au fond de moi que j'allais être nulle et que je préférais me dire que c'était par manque d'investissement et de travail que j'étais nulle. Et pas parce que je ne comprenais rien à rien à l'économie. Et c'est un peu ça avec Twin Peaks, où je me suis dit, si je le regarde jamais, je pourrais jamais dire que j'ai rien compris.
Mmh.
Voilà. Parce que je suspecte que je ne vais rien comprendre.
Je pense que tu comprendras quand même certaines choses, mais merci pour cette candeur. Mais c'est vrai que moi, c'est ça qui me fait très peur, c'est que je sais que t'es assez cartésienne, assez pragmatique, et t'es un peu no bullshit, quoi. Et j'ai peur que le style de Lynch... ne te correspondent pas trop.
On va voir.
On va voir. Mais en même temps, je pense aussi qu'il y a plein de choses que tu peux aimer dans la série. Et j'espère, parce que sinon, honnêtement, ça va être très compliqué. Je pense que c'est le seul moment de ce podcast, de cette saison, où tu vas être heureuse. Parce que tu n'as pas encore vu Twin Peaks. C'est qu'à partir de là, tout va tomber.
Voilà, j'ai l'impression que tu me fais le coup de, après le contrôle, quand on dit « Oh, j'ai tout loupé !» Parce qu'on sait qu'on veut absolument avoir 18 et on essaie de contrer le destin. Et là, tu me fais pareil où tu me dis que je vais détester en pensant que je vais aimer.
Non, bah
en espérant que j'aime, quoi.
Ouais, j'espère que tu vas aimer. Honnêtement, je pense que c'est un défi. Je suis vraiment pas sûre que t'aimes ça, mais en même temps, bah, t'as pas le choix. Donc, il va falloir y aller. Et
c'est peut-être
que...
un défi pour certains des auditeurs aussi. C'est ça qui est intéressant. C'est que je pense qu'il y a peut-être pas mal de gens qui nous ont écoutés pour Friends, qui ont jamais vu Twin Peaks, peut-être pour les mêmes raisons que moi. et qui vont suivre cette aventure avec moi et qui, eux, pourront abandonner en cours de route alors que moi, non.
Bah, c'est ça. Moi, mon grand cheval de bataille, c'est de défendre Twin Peaks comme une série qui n'est pas du tout élitiste et qui n'est pas du tout incompréhensible dans le sens « t'es bête si t'as pas compris ». Et je pense que c'est dommage qu'elle souffre de cette image très fermée, très hermétique. Je pense que, en fait, n'importe qui peut aimer Twin Peaks. Et donc, j'espère que toi, mais aussi les gens qui nous écoutent et qui n'ont peut-être jamais osé découvrir la série, pourront la voir sous ce jour-là. Enfin, vraiment, j'espère. Bon, on rentre un peu plus dans les détails. Qu'est-ce que tu sais de la série ?
Alors, ce
de
que
quoi
je
ça
sais,
parle ?
Je sais que c'est l'histoire d'une disparition de Laura Palmer. Et la question, c'est genre... qui a tué Laura Palmer ou qu'est-ce qui est arrivé à Laura Palmer, un truc comme ça. Je sais que ça se passe près de Seattle. En plus, j'ai vécu dans l'État de Washington pendant un an, donc j'avais vu l'endroit où ça se passait. On m'avait dit c'est Twin Peaks et tout ça.
Waouh. Ouais, là, voilà. Tous les fans de Twin Peaks sont jaloux de toi.
Eh ben ouais, mais bon, j'en avais rien à taper à l'époque. Moi, je voulais aller à Forks pour Twilight. Et je sais aussi qu'il y a, comment il s'appelle, le mec qui jouait le mari de Charlotte impuissant dans Sex and the City. Et je sais qu'il mange des tartes à la cerise ou un truc comme ça, qu'il boit beaucoup de café.
Oui.
Et qu'il y a un diner, du coup. Enfin, ils sont au bord d'une route.
OK.
Et c'est une petite ville américaine. Et ils se connaissent un peu tous.
OK. Et on précise aussi que Marie n'aime pas le café. Donc, on part vraiment de très, très loin avec cette série. OK, sur l'intrigue, c'est tout ce que tu sais.
Je sais aussi que dans la dernière saison, il y a un épisode où on traverse l'espace-temps continuum. Je ne sais pas trop quoi. Et qui visite des planètes ou je ne sais pas quoi. Un peu un truc comme The Tree of Life, mais version Twin Peaks. Parce qu'une fois, tu avais écrit tout un... On avait fait un papier sur les meilleurs épisodes de l'année ou des 20 dernières années. Et tu avais mis celui-là et j'avais rien compris.
Mon Dieu. On va beaucoup s'amuser, je pense. À part donc le mari
Kyle
Charlotte,
machin là.
Ouais, Kyle MacLachlan.
Le pauvre.
Est-ce qu'il y a d'autres personnages de la série dont tu as déjà entendu parler ?
Alors, je sais qu'il y en a une qui porte du rouge à lèvres rouge et qui est hyper belle et elle est brune. Et toi, tu la trouves hyper belle parce que tu en as parlé plein de fois.
Ouais.
Et je sais qu'il y a la...
Tu sais comment elle s'appelle ou pas ?
Je sais pas, Laura Palmer. Ou Carlotta, un truc comme ça. Je sais pas, moi. Là, et très important, en fait, le personnage que je connais le mieux de cette série. Mmh. C'est la Log Lady. Je ne sais pas la traduction en français, mais c'est la dame qui transporte une bûche.
Ouais.
Et la raison pour laquelle je connais cette dame, je ne sais pas ce qu'elle a fait dans sa vie et quel est son... pourquoi elle transporte une bûche avec elle. Mais pour Halloween, au travail, on se déguisait aux États-Unis. Et j'avais une collègue qui était arrivée déguisée en ça. Je n'avais pas compris en quoi elle était déguisée. Mais tous les gens un peu intello de la rédac étaient devenus complètement ouf et lui avaient dit « c'est incroyable ton déguisement, la Log Lady et tout ça ». Donc c'était
toi,
un peu la star
dit,
de la journée.
Tu t'es déguisée en meuf qui va au ski, c'est ça ?
Ouais, voilà. Mais bon, du coup, je connais ce personnage et ce personnage uniquement.
Ok.
Non, et puis bon, bah, le mec, et je crois que Kyle MacLachlan, là...
MacLachlan.
Il joue un policier.
Oui.
Et il enquête sur la mort de Laura Palmer. Et j'imagine, si j'ai envie de faire des suppositions... que c'est un étranger à la petite ville et qu'on va découvrir la petite ville à travers lui. Parce que j'imagine que... Enfin, c'est un peu un trope de ce genre de série policière en règle générale. Et donc, j'imagine qu'il arrive dans cet environnement et que c'est un environnement où beaucoup de gens se connaissent, où tout le monde un peu se connaît. Et lui arrive de l'extérieur et va devoir un peu enquêter et découvrir les dynamiques.
Je ne dis rien.
Ok.
Est-ce qu'il y a des intrigues, des sous-intrigues dont tu as entendu parler ?
Vraiment pas.
Non, rien du tout.
Bah, je
c'est
sais
génial.
Pas. Le fait qu'il mange des tartes à la cerise, j'en ai déjà parlé. Et le truc que tu m'as dit sur le voyage dans l'espace ou dans le temps ou un truc un peu absurde, okay. J'ai rien compris. Enfin bon, c'est un truc.
Mais c'est tout quoi. Sur l'histoire, rien de rien.
Bah, je réfléchis, mais...
Non, mais c'est trop bien, je suis trop contente. Parce que le problème, c'est qu'en vrai, c'est comme beaucoup de séries cultes, même si c'est pas forcément aussi... Si, je pense que c'est aussi culte que Friends, mais dans un autre domaine.
Si, oui.
Mais sur Internet, par exemple, il y a énormément de gifs, de mèmes qui circulent, et il y a tout le temps des gens qui parlent de Twin Peaks. Donc moi, ce qui me fait peur, c'est que tu sois spoilé, en fait, ou que tu lises des trucs, ou que t'aies déjà vu des trucs sur la série qui te gâchent certaines
surprises.
Ça se trouve,
j'en ai vu, mais sans me rendre compte que c'était ça. Ouais. Mais moi, pour moi, vraiment, Twin Peaks, c'est l'image de ce diner au bord d'une route pluvieuse la nuit, ou le jour, je sais pas, hein. Et ils mangent des tartes et ils boivent du café.
C'est un bon résumé. C'est quoi, selon toi, les thèmes qui sont évoqués dans la série ?
Bah, j'en sais rien.
L'espace, le café.
La mort, j'imagine, parce qu'il y a une femme qui a été tuée. Donc la question, c'est qui l'a tuée? Après, non, je sais pas, moi, le travail de... Enfin, la menuiserie, peut-être, à travers la Log Lady. Honnêtement, j'en ai aucune idée, quoi.
Mais t'es pas loin.
C'est vrai. Les thèmes, moi, je supposerais aussi que Cal Machin, il a une histoire d'amour avec la fille avec le rouge à lèvres rouge, ou une histoire où il est tenté, quoi. Mm. Mais peut-être que c'est elle qui a tué Laura Palmer.
Bon. La question principale, on en a déjà un petit peu parlé, mais est-ce que tu penses que ça va te plaire ?
Honnêtement, oui.
Ok.
En fait, le truc, c'est que je suis pleine de surprises.
C'est vrai.
Honnêtement, je suis très heureuse de commencer cette aventure et d'y être forcée. Parce que
Sinon, tu l'aurais jamais
fait. Non, je l'aurais pas fait, honnêtement.
Qu'est-ce que tu redoutes le plus ?
Oh, bah, que ce soit chiant. Parce que, alors, bon, là, je dois avouer que beaucoup de gens m'ont dit « Non, mais dans quoi tu t'embarques ? C'est hyper chiant. »
C'est vraiment pas sympa de la part de ces gens.
Ouais, mais donc voilà. Donc j'ai un peu peur de m'emmerder et de devoir me forcer à regarder des épisodes alors que... Mais au final, franchement, je pense que ça va être une belle aventure.
Bah écoute, garde en tête cette touche positive. Je te la ressortirai à chaque fois que tu te plaindras. Parce que j'ai un peu peur.
Et toi, qu'est-ce que tu redoutes le plus dans cette aventure ?
Pareil que toi, moi, ce que je redoute, c'est que ce soit vraiment laborieux pour toi et que t'aies pas envie de regarder les épisodes et que tu te forces.
Est-ce que ça va me déprimer ? Oh non !
J'ai peur que ça te déprime un peu par moment, ouais.
Ah ouais ?
Bah, on verra, mais... Ouais, je pense que c'est pas Friends et qu'il y a des moments qui vont être peut-être un peu difficiles.
Et qu'est-ce que t'espères le plus ?
Bah, j'espère que tu vas trouver ça brillant, que tu te diras, même si c'est pas un genre vers lequel je me serais tournée naturellement, je trouve ça génial.
Bah, j'espère aussi.
J'ai trop, trop peur. Avant que tu ailles regarder le pilote, Marie, est-ce que tu as envie de faire des prédictions sur ce qui va se passer dans ce pilote ?
Alors, il arrive dans la ville. Il s'arrête au diner. Il prend sa première tasse de café. Il mange de la tarte à la cerise. On lui dit, Laura Palmer, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Elle a disparu. Et il va parler à tout le monde. Et on se demande, qui a tué Laura Palmer ?
Elle a disparu ou elle a été tuée ?
Je crois que la grande question, c'est qui a tué Laura Palmer. Donc, ça, c'est le truc quand même. J'ai 32 ans, 33 maintenant, d'existence sur cette planète. Donc, je sais que qui a tué Laura Palmer, c'est un peu le grand truc de Twin Peaks. Donc, j'imagine qu'elle est morte.
OK.
À moins qu'on suppose qu'elle soit morte, mais qu'en fait, elle n'est pas vraiment morte. Mm-hmm. Mais je pense qu'il vient pour enquêter sur... Donc, je pense que le premier épisode, c'est le début de l'enquête, quoi. Et il découvre un peu que c'est une espèce de ville de fous. C'est un peu le triangle des Bermudes, tu vois, de l'État de Washington. Ils sont entre trois collines et ils n'ont pas accès à la civilisation. Et du coup, ils sont tous un peu tabayots, quoi. Et du coup, ils découvrent cette ville et ils leur parlent et il est là, putain, où est-ce que j'ai atterri ? C'est ça, ma prédiction pour le premier épisode.
C'est un peu le straight man.
Oui, oui.
Et il s'appelle comment, ce monsieur dont tu parles ?
Je sens que j'ai su... Alors, comment il s'appelle ? Ted Palmer. C'est pas ça ? Non, ça, c'est Laura Palmer. Je sais pas.
Jean-Louis.
Jean-Louis Michel.
Moi, je prédis. Il y a un truc que je sais, c'est que t'es très sensible à la musique dans les œuvres, généralement. Et il y a des œuvres où, en fait, tu deviens assez agacé quand la musique est trop omniprésente. Et j'ai un peu peur que ça te saoule dans Twin Peaks.
Ah ouais ?
Ouais. Parce que la musique de Twin Peaks, c'est
oui,
un gros,
connue.
Gros truc.
Oui, elle est connue. Je l'ai en tête. Mais alors, attends. Enfin, je l'ai en tête, j'allais faire... C'est pas ça du tout, mais c'est un truc un peu genre...
Ça, c'est le bon, la brute et le truand.
C'est ça, enfin, c'est du Ennio Morricone, mais c'est... Non, mais c'est un truc un peu genre... Je me souviens plus, mais je...
T'as refait la musique, t'as...
Non, mais je sais plus, mais... Enfin bon, bref.
Un truc que je pense que tu vas aimer, en tout cas, j'espère que tu vas aimer, c'est les costumes.
Alors ça, quelqu'un d'autre me l'a dit aussi. J'ai une amie qui m'a dit, elle a regardé l'an dernier, elle m'a dit, tu vas adorer les décors et les costumes.
Ouais, ouais, je pense que les tenues, effectivement, tu vas faire quelques screenshots.
Ça, c'est bien. Ça me réjouit pas mal, parce que c'est très important.
Voilà, pour le reste, je pense que je peux pas prédire sans te spoiler, donc je vais éviter.
Ok.
Marie, tu vas aller visionner le pilote de ce pas et puis on débrief juste après.
Oui.
Je te souhaite bon courage.
Mais tu me fais hyper peur en fait. Le truc, c'est que tu es en train de me bâtir un truc où je vais regarder chaque épisode avec une crainte dans le cœur en me disant qu'est-ce qui va me déprimer dans cet épisode maintenant.
Non, mais après c'est pas vraiment de la déprime, mais c'est juste que c'est pas une série qui est toujours très légère quoi.
Mais ça va
c'est
être une angoisse existentielle ?
Non.
Parce que moi, je veux pas ça. Hein.
Non, je pense pas que t'auras d'angoisse existentielle.
Bon, alors ça va. Moi, je veux pas des trucs d'angoisse existentielle. J'ai déjà ça en moi.
Mais moi aussi, c'est pour ça que j'adore les séries existentielles. C'est parce que ça vient gratter ce petit truc en moi, quoi.
Là, ce que tu me dis m'inquiète un petit peu. J'avoue.
Après, je veux pas trop t'en dire, mais c'est aussi quelque chose qui est peu connu pour les gens qui ne connaissent pas bien l'œuvre de Lynch. Mais moi, je me marre devant tous les trucs de Lynch, en fait.
Ah, mais ça, c'est l'image que j'en ai. C'est que c'est drôle. Déjà, la femme qui balade avec une bûche, je peux voir l'aspect comique là-dedans.
Ouais. Je pense, honnêtement, je pense qu'on va bien se marrer.
Ok.
Et ben voilà, on se retrouve juste après ton visionnage.
J'espère que je vais pas me défenestrer de mon nouveau balconnet au 4e étage.
C'est clair. Marie, ça y est, tu as vu le pilote de Twin Peaks.
Je ne suis plus vierge de...
Félicitations.
Lynch.
Quelles sont tes premières impressions ?
C'était long. C'était très très long. Ça dure quand même 1h30 ce truc. Enfin, ouais. C'est un pilote d'1h30, donc c'est la longueur d'un film.
Exactement.
Ça a été un petit trauma, j'avoue. Quand j'ai vu ça, je me suis dit merde.
T'étais pas préparée en fait.
Non, pas du tout. Mais vraiment pas. Et j'avoue que au niveau du rythme, comment dire ? Ça prend son temps. Je pense que si j'avais été dans la salle de montage, j'aurais probablement suggéré quelques coupes ou des accélérations parce que tout le monde parle très lentement. C'est vrai qu'à plusieurs reprises, j'étais un tout petit peu frustrée par la lenteur. Et il faut dire qu'en plus, j'étais un peu fatiguée ce soir-là. Donc,
Oh mon Dieu.
Je m'endors. Il reste 40 minutes, je m'endors et il est même pas 20h. Bon. Ça va là, hein? J'ai l'impression que c'est filmé au ralenti.
Oh mon Dieu.
Ouais, c'était dur. C'était très difficile.
Je suis vraiment désolée.
Je l'ai même revu une deuxième fois, en fait, par acquis de conscience. C'est parce que je comprenais rien. Enfin, je comprenais, mais je voyais pas qui était qui. Je me souvenais pas des prénoms. Donc, je me suis dit, il faut vraiment que je le revoie pour tout bien comprendre, parce que je fais bien mes devoirs. Et ça a été moins dur la deuxième fois, c'est dit, parce que je savais à quoi m'attendre. Là, c'était vraiment genre, mais pourquoi ça s'arrête pas, quoi?
Mais c'était ma question suivante, justement. Est-ce que t'as compris? Puisque c'était quand même la grosse problématique avant que tu regardes.
Oui, là, honnêtement, j'ai tout compris. Alors, je
Bravo.
Pense... Enfin, il y a des choix éditoriaux, disons, que j'ai pas compris.
Du genre quoi?
Bah, du genre la musique, mais on va en reparler. Mais il y a des choses comme ça que j'ai pas compris. Mais pour ce qui est de l'intrigue en elle-même, pour l'instant, j'arrive à suivre. C'est assez linéaire. Il n'y a pas trop de problèmes. Je pense que c'est pas très intimidant. Et puis, comme ça prend vraiment son temps, t'as le temps de digérer chaque réplique. Donc, vraiment, t'as le temps de l'intégrer, quoi.
C'est clair. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise?
Bah, ce qui m'a surprise, justement, c'est que j'avais compris, en fait. C'est ça qui m'a surprise. C'est que j'ai tout compris. Ça m'a surpris, honnêtement. Et j'ai aussi compris que j'avais fait une très bonne prédiction sur la menuiserie.
Mais grave.
En fait, c'est un peu ça le deal de cette ville, quoi. C'est, on va l'entendre, mais dès le générique, j'étais là. Ah, ça y est.
Il y a une grosse bûche. Alors, je suppose qu'en fait, le deal de cette ville, c'est qu'il coupe beaucoup de bois.
Voilà, est-ce que j'ai raison?
Bravo. J'ai très forte pour l'instant.
Un autre truc qui m'a surpris, c'est qu'ils ne vont pas beaucoup au diner. Moi, j'avais l'impression qu'ils étaient tout le temps au diner en train de boire des cafés et manger des tartes à la cerise. Et en fait, pas du tout. Enfin, peut-être que ça viendra. Mais pour l'instant, le diner, on le voit une ou deux fois. Quoi. On voit plus la station essence que le diner.
C'est vrai.
Voilà.
Je te laisserai découvrir la suite. Bon, honnêtement, quand tu m'as dit que tu avais trouvé ça très très long, j'étais un peu flippée. Est-ce qu'il y a quand même des trucs qui t'ont plu dans ce pilote ou t'as déjà envie de partir en courant et tu regrettes d'avoir décidé de faire cette saison 2 d'Amis sur Twin Peaks ?
Une chose qui m'a vraiment plu, c'est le cadre en fait. Parce que comme je l'ai dit précédemment, j'ai vécu dans l'état de Washington. J'étais aussi avec un Américain pendant plusieurs années qui venait de l'Oregon, donc j'y passais beaucoup de temps. Et c'est une région des États-Unis que j'adore. Mmh. Et j'adore cette esthétique, en fait, avec les grands arbres devant lesquels l'agent Cooper s'émerveille.
Cooper,
voilà. Je vais parler comme ça pendant tout le podcast. Vraiment, le cadre, moi, non seulement me plaît, mais en plus, c'est un peu une Madeleine de Proust, quoi. Où c'est un coin des États-Unis que j'adore. Donc, j'ai beaucoup aimé m'y replonger. Les tenues sont très belles.
Ah.
Voilà.
Ding, ding, ding. Ouais.
Et les décors aussi sont vraiment cool. Et puis après, je suis assez curieuse de là où va aller l'intrigue. Et la remarque que je me suis faite, c'était que, en fait, je prenais pas tant de plaisir à regarder, mais que j'avais hâte d'en discuter avec toi, en fait. J'avais hâte de débriefer.
Voilà. Tu as hâte de débriefer ta souffrance.
Exactement.
Ça promet. On va reprendre la tradition de la saison 1 d'Amis. Marie, est-ce que tu peux nous résumer en 30 secondes le pilote de Twin Peaks ?
Déjà, ça s'ouvre direct, il y a un cadavre. C'est Laura Palmer, apparemment tout le monde la connaît, elle était hyper populaire, elle est morte, mais qui l'a tuée ? Ça va être la grande, grande question. Il y a un shérif qui enquête, il y a tous ses amis du lycée qui comprennent sans qu'on leur dise qu'elle est morte, donc déjà ça c'est un peu... Et ensuite, il y a un agent du FBI qui ressemble un peu à un mec qui était dans ma classe en CE2, qui mettait tout le temps des costards pour aller en cours.
Et en CE2 ?
Ouais, et c'était le premier de la classe, et c'est lui s'il avait grandi, tu vois. Enfin, vraiment, je l'imagine comme ça aujourd'hui, donc il fait très propre. Et il a des éclairs de génie tout le temps, apparemment il est brillant. Et lui, il va enquêter sur l'affaire, et c'est une petite ville où il y a pas mal de gens un peu bizarres, dont la femme qui se balade avec la bûche, et puis voilà.
C'est pas mal.
Ouais.
Bon, on va rentrer dans le vif du sujet, on va un peu découper l'épisode, voir ce qui se passe dans ce pilote. Alors déjà, tu pensais qu'on n'allait pas tout de suite savoir si Laura Palmer était morte, mais comme tu l'as dit, ça s'ouvre directement sur la découverte de son cadavre.
Lucy, Lucy, this is Pete Martell. Lucy, put Harry on the horn.
Morning, Pete. Harry.
She's dead. Wrapped in plastic.
Hold on a second, Pete.
Qu'est-ce que t'as pensé de cette entrée en matière ?
Bah, au moins, ça a le mérite d'être clair, quoi. Enfin, y a pas de souci, on sait de quoi il s'agit. Donc, oui, c'était... Puis le mec part à la pêche et puis il voit un sac sur la plage. Enfin bon, j'ai pas d'opinion très tranchée sur cette ouverture, mais au moins, on sait de suite qu'il s'agit d'une enquête sur un crime. Peut-être que ça va pas être ça toute la série, parce que d'après ce que j'ai compris, à un moment, on part dans un truc existentiel, mais pour l'instant, c'est ça, quoi.
Par rapport à d'autres séries criminelles comme True Detective ou d'autres choses comme ça, la découverte du corps, ça t'a paru plus ou moins réussi ou...
Disons qu'au moins, elle n'est pas objectifiée, comme c'était le cas dans True Detective, où vraiment, il y a une espèce de sexualisation un peu étrange du cadavre. Là, c'est assez pudique. C'est pas mal fait, en fait, et on comprend le truc qui m'a fait beaucoup rire. Par contre, c'est l'assistant du shérif qui fait que chialer.
Oui,
d'ailleurs, c'est mon principal suspect pour l'instant, parce que je suis là, pourquoi il pleure tout le temps, lui. C'est quand même chelou de pleurer à chaque... Enfin bon, c'est son métier, il est tout le temps en train de pleurer.
Ok, je note. Ouais, bah en fait, moi, c'est ça qui me frappe à chaque fois que je revois le pilote, c'est que la mort de Laura affecte vraiment toute la ville. Il y a même le principal qui se met à pleurer quand il annonce sa mort au lycée. Il y a effectivement Andy du département du shérif qui pleure plusieurs fois. Et moi, il y a vraiment des scènes qui me bouleversent, en fait, dans ce pilote avec la découverte de la mort de Laura par plusieurs personnages. Est-ce que toi, il y a eu des moments où tu étais émue ?
Pas du tout. Mais alors, vraiment pas. Et bon, j'ai un peu honte de le dire. Mais en fait... Et ça, c'est une des choses qui m'a le plus marquée dans l'épisode. Et je pense que c'est quelque chose peut-être de caractéristique chez David Lynch, mais je sais pas parce que j'ai rien vu de lui. Mais c'est très camp, en fait. Le camp, pour resituer, c'est un peu une approche esthétique et artistique où on reprend des codes traditionnellement mauvais goût avec beaucoup d'ironie et de distance. Et en fait, j'ai vraiment l'impression qu'il y avait ça, aussi bien à travers la musique qu'à travers le jeu des acteurs, qui est parfois un peu too much, je trouvais, qui était très un peu soap opéra des années 80, quoi, dans la musique, vraiment, mais j'ai pas compris, quoi. Et du coup, pour moi, ça faisait un peu une distance entre moi et l'histoire où les réactions d'émotion des personnages, par exemple la mère, le père ou même sa meilleure amie, étaient tellement surjouées, je trouvais. Et puis en plus, avec la musique derrière, ça me laissait... Au contraire, parfois j'ai honte, mais ça m'a fait un peu rire, quoi. Enfin, il y avait des moments où, parce que j'avais l'impression d'être face à, je sais pas, une espèce de tragédie grecque où tout le monde s'attrape le visage de chaque côté en criant face à la caméra avec la bouche ouverte. Pour moi, c'était vraiment un très camp.
Sarah, what is it?
Is Laura with you?
No. Why?
She didn't go with you this morning.
No. What, honey? What's wrong? What's this all about?
She's not here. She wasn't here this morning.
Sheriff Truman.
Laura! Oh, Waylon, please. What is it? Tell me. Oh, my baby. No! Oh, no! No!
J'ai une impression, en tout cas, qu'il y avait une vraie distance ironique entre l'intrigue et ce que je voyais à l'écran et la façon dont c'était traité. Et en fait, cette distance m'a empêchée, en tout cas cette fois-ci, de ressentir des émotions.
Ouais, c'est intéressant. Je pense qu'effectivement, il y a une esthétique qui peut être camp dans d'autres œuvres de Lynch. Par exemple, Sailor et Lula, enfin, il y a un peu de ça aussi. Mais c'est marrant, moi, ça doit être parce que je connais parfaitement l'univers de Twin Peaks et du coup, je vois pas du tout de décalage, en fait. Enfin, pour moi, je pense que je suis tellement habituée à cette atmosphère-là que, bah, notamment quand Donna, par exemple, la camarade de classe de Laura, enfin, sa meilleure amie, se met à pleurer. D'ailleurs, c'est un gif très célèbre qu'on a vu plein de fois sur Internet. Moi, je trouve ça vraiment déchirant parce que, comme tu l'as dit, elle comprend avant qu'on lui dise que Laura est morte. Et il y a plusieurs moments comme ça où sa mère aussi comprend avant qu'on lui dise que Laura est morte. Et cette espèce de prémonition un peu foudroyante qu'elles ont, moi, je trouve ça très, très émouvant. Et
moi, je trouve ça suspect, en fait. Je me demande pourquoi. Non, mais c'est vrai. Hein.
Sans vouloir trop en dire, enfin, il y a une sorte de réalisme un peu amplifié dans Twin Peaks qui fait que, enfin, c'est peut-être ça aussi qui t'a un peu frappé, mais c'est vrai que c'est des moments où moi j'ai fait même plus attention, en fait, parce que ça me paraît totalement normal dans cet univers-là.
Oui, je pense qu'il faut rentrer dedans. Et lors de mon deuxième visionnage, c'était déjà un peu moins frappant.
Ouais.
Mais vraiment, il y a des moments, le jeu des acteurs, surtout le. Il y en a un, mais il ne sait pas jouer, c'est pas possible. Parce qu'il y en a, tu sens que ça fait partie un peu du jeu, à mon avis, et de la direction. Mais il y en a un, c'était le mec de... ça va vraiment pas être précis. Le mec qui est camionneur, là, qui est le mec de la meuf très jolie,
oui.
La blonde.
Ouais,
mais alors lui, on dirait vraiment une caricature,
ouais,
d'un soap-opéra des années 80. Mais tu avais prédit que la musique me dérangerait. Et vraiment, pour moi, ça a été mon plus gros problème avec cet épisode. Et ce qui m'a en fait complètement sorti du truc à plusieurs reprises, et on va l'entendre parce que vraiment je comprenais pas quoi. Mais pourquoi cette musique ?
Moi je trouve ça déchirant cette scène.
C'est vrai ? Non mais le.
Ouais, mais pour moi, en fait, j'ai tellement écouté la musique de Twin Peaks qui est vraiment, enfin, pour moi, qui est sublime, quoi, d'Angelo Badalamenti. Et du coup, vraiment, j'y prête même plus attention. Enfin, au contraire, je la trouve vraiment magnifique.
Ouais, enfin, moi, vraiment, ça me rappelle des téléfilms TF1 du samedi après-midi, tu vois, enfin, des années 90 où, genre, il y avait un téléfilm, c'était La femme aux deux visages ou un truc comme ça, où elle se fait tuer par son mari et après, il croit, elle est jetée au crocodile à son mari. Et après, elle fait une reconstruction faciale et elle revient pour se venger, la vengeance à deux visages, c'était ça. Et pour moi, ça me rappelle ça, en fait. C'est ce genre de musique un peu ultra kitsch. Enfin, dans les moments comme ça, il y a d'autres moments, le générique, je trouve la musique géniale, mais il y a d'autres moments aussi où juste la musique, pour moi, était crispante, en fait. On va l'entendre.
J'en veux plus de cette musique.
Diane, I'm holding in my hand a small box of chocolate bunnies.
Oh non, pas cette musique, là, j'en veux plus, moi.
Oh, pauvre Marie.
Oui, c'était...
Tu vas souffrir.
Mais je pense que je vais m'y faire au bout d'un moment, en vrai, parce que c'est... Je me suis dit, en fait, en le revoyant la deuxième fois, c'est un peu comme... Parfois, il y a des albums de musique où tu les écoutes la première fois, tu es là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et en fait, à force de les écouter, c'était un peu Animal Collective il y a 10 ans, où au début, j'étais là, complètement imperméable. Et puis, à force de l'écouter plusieurs fois, après, je suis rentrée dedans et j'ai adoré l'univers. Et peut-être que ça va être comme ça avec Twin Peaks, c'est la réflexion que je me suis faite, quoi.
Bah, j'espère que tu vas te mettre à chanter toutes les transitions musicales comme avec Friends.
Mais ça, je veux bien y croire. Mais par contre, j'attends de voir si, du coup, ça va pas continuer à me sortir un peu de l'intrigue.
Pas, hein. Bon, il faut qu'on débriefe un peu les personnages parce qu'il y en a beaucoup qui sont présentés durant cet épisode. On va s'attarder sur les plus importants et puis on aura le temps de revenir après sur les personnages secondaires pour la suite. Est-ce qu'il y a déjà des personnages qui t'ont particulièrement plu ?
Alors moi, ma préférée, c'est Lucie.
C'est la trop cool.
Elle, c'est vraiment, s'il pouvait faire une série juste sur elle, je regarde, quoi. C'est un personnage de sitcom, en fait, c'est pour ça que je l'adore.
Alors, pour resituer Lucie, donc c'est la secrétaire ouais, du commissariat, enfin du
bureau de shérif,
ouais,
voilà, du shérif. Et elle est complètement neuneu, mais en même temps, pas si conne que ça. Elle a une petite voix comme ça, et puis elle, quand elle dit au shérif, c'est ce téléphone, non pas celui-là, enfin, ça dure 3 heures, son truc.
Sheriff, it's Pete Martel up at the mill. I'm gonna transfer to the phone on the table by the red chair. The red chair... against the wall, the little table with the lamp on it, the lamp that we moved from the corner, the black phone, not the brown phone.
Mais après, en fait, c'est elle, en plus, quand les deux suspects, enfin Bobby et son meilleur ami, sont en train de parler dans le couloir, elle prétend taper, mais en fait, elle tape tout ce qu'ils disent. J'étais là, elle est maligne, la Lucie, en fait. Faut pas... Du coup, Lucie, vraiment, c'est ma préf, quoi. Elle est vraiment géniale.
Ouais, elle est géniale. Ah, je suis contente que tu la kiffes.
Ouais, non, elle est vraiment super. Le mec qui pleure tout le temps, il m'a fait beaucoup rire aussi. D'ailleurs, j'ai l'impression, ils sont en couple ou quoi? Parce qu'elle appelait Babe tout le temps.
Oh, tu verras.
D'accord. Mais en tout cas, ces deux-là, et il y en a une autre, elle est là pendant 2 minutes, mais en fait, c'est Peggy Lipton. C'est la mère de Rashida Jones, donc je la connais à travers ça.
Qui joue Norma dans
Voilà,
la
exactement.
Série.
Et elle joue Norma, qui est la serveuse un peu plus âgée et hyper belle au diner. Et quand j'ai vu son nom, en fait, dans le générique, j'étais hyper contente parce que je la connais à travers justement l'histoire familiale, parce qu'elle était avec Quincy Jones et elle a eu donc plusieurs enfants avec lui, dont Rashida Jones, qui joue dans Parks and Recreation et dans The Office. Et donc, j'étais hyper contente de la voir. Et elle, j'ai hâte que son personnage se développe un peu plus. D'ailleurs, elle a une liaison dedans avec un mec, mais qui est tellement moche. Et lui, je le suspecte aussi. Lui, il est bizarre.
Oh mon Dieu, c'est génial. Bon, alors, dans les plus importants, il y a le shérif Harry Truman, déjà, le bien nommé Harry Truman. Qu'est-ce que t'as pensé du shérif?
Ah non, mais j'ai un énorme crush sur le shérif.
Ah, j'en étais sûre.
Vraiment, j'ai un énorme crush parce que tout le monde m'avait parlé de l'agent Cooper, alors que je le trouve vraiment, pour moi, l'agent Cooper, on dirait qu'il a 8 ans et qu'il a grandi trop vite, quoi, et qu'il essaie de prétendre être un papa en se gominant les...
On dirait le personnage dans BoJack Horseman qui est genre 3 enfants avec un imperméable, oui, empilé dans un imperméable.
C'est exactement ça. Alors que vraiment, le shérif, ouf, même sa coupe mulet me dégoûte pas, quoi. Franchement, c'est mon sweet spot. Why don't you whistle for a little
backup? Il est mignon, le shérif.
Tu m'avais dit que t'avais un crush sur un personnage et je me demandais si c'était lui.
Et d'ailleurs, l'autre que je trouve magnifique, c'est sa meuf, en fait, dedans, où c'est elle que j'ai trouvée la mieux habillée. J'ai pris des screenshots. Et elle est vraiment trop, trop belle.
C'est Josie Packard, le personnage.
Et elle joue, en fait, la patronne de la Syrie locale, qui vient de Hong Kong et qui est juste absolument sublime.
Ouais,
mais par contre, la scène d'ouverture, en fait, c'est elle qui se met du rouge à lèvres et qui a l'air hyper torturée. J'étais là, pourquoi elle est torturée? Peut-être qu'elle aussi, c'est une suspecte.
Mm-hmm. Après, c'est un peu une des grosses caractéristiques de Twin Peaks.
À toutes les femmes,
toutes les meufs sont incroyablement belles.
Je me suis fait la réflexion, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils mettent dans l'eau de cette ville, quoi? Parce que littéralement, elles sont toutes absolument... Il n'y en a pas une... Enfin, Lucie, c'est la plus banale de toutes, mais
ouais.
elle est mignonne.
Elle est très jolie aussi, ouais.
Mais elles sont toutes, mais magnifiques.
Mmh. Ouais, je pense honnêtement que c'est le casting féminin le plus beau de l'histoire de la télé.
Ah non, vraiment. Elles sont vraiment incroyables.
C'est hallucinant. Et à chaque fois que je revois cette série, je me dis, mais c'est pas possible, en fait. Elles sont toutes trop belles. Bon, le nouveau partenaire de ton crush, c'est l'incontournable Dale Cooper.
Ouais.
Alors, qu'est-ce que t'as pensé de Dale Cooper, de son arrivée?
Déjà, j'adore qu'il fasse son dictaphone là avec Diane. Et j'étais là, est-ce que Diane existe vraiment? Ça, c'est ma question. Parce que je pense qu'en fait, c'est le nom de son journal intime, quoi. Je sais pas. Je me demande si un jour, on va voir Diane, quoi. Ou si c'est une running joke dans le truc où on se demande tout le temps qui est Diane. J'aime sa passion pour les grands arbres.
C'est clair.
Je comprends.
Et il est vraiment, vraiment passionné par
les
grands arbres.
J'aime bien. Enfin, il est bien écrit, je trouve, justement, parce qu'il a un côté hyper marrant et un peu idiosyncratique, où il a plein de petites manies ou des choses comme ça, et du coup je vois comment il a pu devenir culte. Par contre, ces espèces de poussées de génie sur l'enquête m'ont fait beaucoup rire, en fait, parce que je trouvais ça tellement gros. On va l'entendre. Well, I pretended to be typing, but I was typing what Mike and Bobby were saying, and here's what they were saying. They said the person we're looking for is a biker.
Yeah. Odd to me. Holy smoke.
Holy smoke.
Meaning, how else is she gonna lead us to that biker?
Wow, il est trop fort.
Et en fait, le premier extrait, c'est vraiment Lucie, la pauvre en plus, qui a eu son espèce d'éclair de génie où elle a tout tapé à la machine. Elle arrive pour lui lire, elle est hyper fière d'elle. Et lui, il lui dit, on recherche un motard. Et comment il a vu ça? C'est dans la vidéo, dans l'iris, le reflet de l'iris, donc de l'œil de Laura Palmer. On voit le reflet d'une vidéo, d'une moto. J'étais là, mais c'est n'importe quoi. Déjà, comment il remarque ça? Et puis en plus, c'est pas parce qu'il voit le reflet d'une moto que l'autre va lui dire qu'on cherche un motard. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est juste, c'est complètement absurde. Mais du coup, ça m'a fait beaucoup rire.
Je pense que si ça te paraît absurde,
il va falloir que je m'accroche.
Ouais, que tu t'accroches pour les méthodes de Dale Cooper. Parce que... Ça, c'est très factuel comme...
Mais c'est marrant parce qu'en plus, la dernière fois, tu m'as dit, dans un épisode de Pic TV, j'ai dit que j'aimais les trucs sans résolution. et tu m'as dit, bah, tu vas aimer Twin Peaks, donc je me demande si l'affaire va être résolue. Et je me dis, avec ses méthodes et ses éclairs de génie, quand même, si elle ne résout pas cette affaire, je ne vois pas qui pourrait, quoi.
Alors, on va passer au reste des personnages. Je ne sais pas si tu t'attendais à ce qu'il y ait autant de lycéens, parce qu'en fait, une grosse partie de l'intrigue de Twin Peaks, en fait, c'est une intrigue de lycée.
Ouais.
Tu t'attendais à ça dès le départ ?
Je ne sais pas, parce que je pensais, dans ma tête, Laura Palmer, c'était genre une femme qui vivait seule dans la ville ou un truc comme ça. Donc non, je n'avais pas du tout pensé à l'aspect...
Homecoming Queen.
Ouais, voilà. Même la fille avec le rouge à lèvres très rouge, là, avec le même grain de beauté que moi. Moi aussi, j'ai un grain de beauté à côté de l'œil. Elle...
Audrey.
Je pensais que c'était un peu une vamp, mais plus âgée, quoi. Qui avait la trentaine et qui séduisait un peu les hommes du coin, quoi.
Donc, alors qu'elle a 16 ans.
Ouais, voilà. Mais elle fait quand même ça.
Alors, qu'est-ce que t'as pensé d'Audrey, justement ?
Audrey m'a fait rire. C'est une petite sadique, elle est marrante, quoi. Elle aime bien manipuler, du coup. Bon, elle aussi, elle est suspecte, parce que quand elle apprend la mort de Laura Palmer, elle a un petit sourire en coin.
Tout le monde est suspect avec toi.
Bah, y a beaucoup de suspects, je trouve. Mais en même temps, je pense que c'est un peu le principe.
Oui.
Mais je l'aime bien, elle m'a fait rire. La façon dont elle a traité les Norvégiens, c'était marrant. Tu sens qu'elle aime bien, enfin, elle a un petit effet poil à gratter. Je prédis qu'elle va, parce que Dale Cooper, il va rester à l'hôtel où elle vit, d'après ce que j'ai compris. Je sais pas si la réceptionniste est sa mère ou comment ça se passe, mais enfin bon. Elle vit dans cet hôtel où elle a un lien avec, et lui, il va rester dans cet hôtel. Donc, à mon avis, elle va lui en faire voir de toutes les couleurs. Elle va essayer de le séduire. Enfin, elle va être un peu perverse. Donc, elle me plaît.
Ouais, je comprends. Bah, Audrey, c'est vraiment une fan favorite. Tu le verras par la suite. Mais en fait, le père d'Audrey, c'est le patron de l'hôtel.
Ah, d'accord, ok.
Et il y a effectivement cette scène que j'adore dans le pilote où elle se ramène. Juste après, en fait, il y a une conférence, effectivement, oui, des invités norvégiens qui sont là pour investir dans la ville. Elle leur raconte que son ami, Laura Palmer, a été tué. Et ça les fait fuir parce qu'ils se disent, on ne veut pas être dans une ville où il y a des meurtres. Et il y a cette scène où après tout l'hôtel est en panique et il y a une femme qui arrête pas de crier The Norwegians are leaving, the Norwegians are leaving. Et elle est en train de se frotter les mains et de jubiler parce qu'elle est contente d'avoir ruiné l'affaire de son père. C'est assez génial. The Norwegians are leaving, the Norwegians are leaving, the Norwegians. Au lycée, il y a aussi Donna, donc celle qui s'est mise à pleurer, qui est donc la meilleure amie de Laura Palmer. Qu'est-ce que tu as pensé de Donna? Est-ce qu'il y a des personnages qui ne sont pas suspects pour toi? Ça va aller plus vite peut-être.
Bah, je vais te dire un truc et ça se trouve c'est lui, mais le shérif, moi j'ai trop un crush sur lui, donc je ne veux vraiment pas qu'il soit suspect. Des personnages qui ne sont pas suspects, bah, honnêtement, non. L'agent Cooper, quoi. Je pense qu'il n'est pas suspect pour moi.
Ouais.
Mais le reste, tout le monde, all better off, quoi.
Ça veut dire que c'est plutôt réussi, c'est un bon début de whodunit.
Oui, exactement. Non, non.
James, qui est le compagnon de Donna, enfin l'ami de Donna et l'ex-petit ami secret de Laura Palmer.
Oui, et le compagnon après de Donna. Enfin voilà, bon, ils se remettent très très vite quand même de leurs émotions. D'ailleurs, c'est la réflexion que je me suis faite en regardant la série.
Eh ben, il est rapide, hein, il s'en remet. Hein.
Eh ben...
Voilà, petite observation PMU.
Eh ben oui. Dis donc, il s'en remet très vite.
Non, mais c'est vrai que c'est un peu choquant.
Par contre, les mecs de cette ville, à part le shérif, il n'y en a pas un pour attraper l'autre, quoi.
C'est vrai. D'ailleurs, il y a un autre mec qui était pour le coup le petit ami officiel de Laura Palmer, c'est Bobby.
Ah, il est insupportable.
Ah ouais,
mais lui, vraiment, c'est le bingo du gros con, quoi. Et lui aussi, je le trouve suspect.
Bobby, the bad news.
You think I killed her?
Putain, il est pas très rapide, lui.
Il est un peu teubé, quand même.
Bah, c'est vrai qu'il a ce personnage de l'athlète du lycée qui sortait avec la meuf la plus populaire du lycée, Laura Palmer, et qui est un peu prétentieux, qui est beau gosse, voilà. Moi, j'avoue que j'ai une petite affection pour Bobby, donc j'espère que...
Mais peut-être que ça s'est bâti au fil des épisodes, j'imagine. Parce que pour l'instant, franchement, il n'y a pas vraiment... Mais je pense, en vrai, lui, tu vois, je pense que c'est trop évident que ce soit lui, donc à mon avis, il n'a pas tué.
C'est ça, parce que c'était le petit ami, donc c'est celui qui a un plus gros mobile.
Ouais.
Et d'ailleurs, c'est lui qui est arrêté dans le pilote parce que c'est le premier suspect pour la police aussi. Et enfin, il y a Shelly qui, elle aussi, c'est compliqué si vous n'avez pas suivi, mais Shelly qui a aussi une affaire avec Bobby.
Oui, mais alors moi, je ne comprenais pas. Alors, Shelly aussi très jolie, une blonde qui travaille au diner et tout ça.
Matchen Amick, qui d'ailleurs, depuis, elle joue une des mères dans Riverdale, enfin qui a été un peu...
Ah oui, ah, mais c'est la blonde, la mère de...
Ouais.
La blonde. Ah oui, d'accord, ok.
Mm.
Bah, elle... j'avais pas compris à la... parce qu'à un moment il lui dit your old man ou un truc comme ça et je croyais du coup que c'était son père le camionneur, mais après bon il lui fait une crise de jalousie donc j'étais là c'est un peu chelou, peut-être que c'est...
Non, c'est son mec, ouais.
C'est son mec, Léon. Voilà. Franchement, elle est pas aidée la pauvre. Mais c'est clair. Mais bon, mais non, j'ai pas trop de eu d'émotion particulièrement forte par rapport à elle.
Pas d'avis pour l'instant. Non. On a aussi un petit aperçu, tu l'as dit, de tous les personnages hauts en couleur de Twin Peaks, on aura l'occasion d'y revenir je pense de nombreuses fois, mais là évidemment, il y a la seule que tu connaissais à la base, la Log Lady.
J'étais très contente quand je l'ai vue.
Elle est là.
Je suis contente.
Elle arrive. Elle est là.
Mais un peu déçue parce qu'on la voit juste deux secondes, quoi.
C'est vrai. Bon, ça reste un personnage secondaire, mais t'en as pensé
quoi ? Me dis pas ça. J'avais l'espoir qu'elle devienne centrale à un moment, quoi. Non, mais elle est géniale. Elle, vraiment.
Et cette scène d'introduction où, effectivement, elle fait que allumer et éteindre la lumière de la salle des fêtes, en gros, où ils se retrouvent.
J'avais même pas remarqué qu'elle faisait ça parce que j'étais tellement concentrée sur sa bûche.
Mais c'est ça, parce qu'en fait, il y a un niveau d'absurdité où déjà, elle est avec une bûche et elle a un look quand même un peu particulier. Et deuxième niveau d'absurdité où elle fait que éteindre et allumer la lumière pour attirer l'attention des autres personnes qui sont dans la pièce.
Oui, mais pour moi, ça faisait un peu comme au théâtre quand ça commence et qu'on éteint et allume la lumière plusieurs fois, donc je trouve ça totalement logique. Enfin, moi, j'ai compris son raisonnement.
Bon, bah, c'est bien. Déjà, tu rentres dans la logique de Twin Peaks de manière très aisée, en fait.
On va voir.
Bon, maintenant qu'on a fait un peu le tour de tous les personnages, j'ai une question très importante et les gens qui ont vu Twin Peaks comprendront pourquoi je te pose cette question. Est-ce qu'il y en a un qui te paraît particulièrement cool ?
Dans quel sens du mot cool ?
Je sais pas.
genre cool cucumber ou stylé, ouais, ouais. D'accord. Bah honnêtement, quand j'ai vu cette question sur le conducteur, je sais pas pourquoi elle me pose cette question. Bon, maintenant j'ai l'impression qu'il y a un truc, un espèce d'agenda secret que je ne comprends pas, mais a priori les gens que je trouve cool, bah le shérif. Mais encore une fois, je suis biaisée, je trouve juste
le shérif is the new Ross.
Ouais, voilà.
Non, mais je comprends, il est très mignon.
Et dans les gens cool, bah, je sais pas, Audrey, elle a l'air assez cool, quoi. Enfin, cool dans le sens, justement, stylé, quoi. Mmh.
Alors, t'as parlé du côté un peu camp. C'est marrant parce que moi, c'est pas forcément ce mot-là que j'aurais utilisé pour décrire la série. Mais c'est vrai que Twin Peaks, en fait, est beaucoup inspiré par les soaps des années 80. D'ailleurs, c'était vraiment une référence assumée de la part de Lynch et Frost. Il y a quand
c'est
même...
qui, Frost ?
Ah, c'est le co-créateur de Twin Peaks.
C'est bon à savoir.
Donc, il y a Mark Frost et David Lynch.
Il a fait d'autres trucs, Mark Frost. J'ai l'impression que je connais son nom.
Oui, donc en fait, je vais expliquer un petit peu la genèse de Twin Peaks. On va faire rapide, mais en gros, Mark Frost, c'était un scénariste de télévision qui travaillait sur Hill Street Blues, donc qui était un peu la série procédurale policière de l'époque, qui encore aujourd'hui est reconnue comme une très grande série qui a eu beaucoup d'influence sur le reste de la télévision. David Lynch, c'était le réalisateur expérimental que l'on connaît. Et en fait, ils ont été...
Moi, je le connais pas.
Voilà, que tout le monde connaît, sauf Marie. Et en fait, à la fin des années 80, on les a réunis, un agent leur a demandé de collaborer ensemble sur un projet de film sur les derniers jours de Marilyn Monroe. Et donc, ils ont commencé à bosser tous les deux, ils se sont très bien entendus. Finalement, le film ne s'est pas fait parce que le script impliquait Bobby Kennedy et qu'on leur a dit non, en fait, on va pas faire ce film. Par exemple, dans Mulholland Drive, Marilyn Monroe, c'est aussi une figure qui est un peu présente. Enfin, en fait, cette idée de féminité un peu déchue et tragique, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la filmographie de Lynch. Et d'ailleurs, Lynch a dit que Laura Palmer pouvait aussi être considérée comme Marilyn Monroe. En fait, pour lui, tout est à propos de Marilyn Monroe dans la vie.
Ça me plaît parce que j'adore Marilyn Monroe.
Ouais, bah, et vraiment, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup et qu'on retrouve beaucoup dans Twin Peaks. Donc finalement, ce projet de film ne s'est pas fait, mais ils s'appréciaient beaucoup, Frost et Lynch. Donc ils voulaient quand même trouver un autre projet sur lequel travailler ensemble. Et donc, de fil en aiguille, ils ont décidé de proposer donc Twin Peaks. Ils n'avaient pas grand-chose comme idée à part que ce serait un procédural avec la mort d'une homecoming queen, et ils avaient tout de suite cette image de, voilà, on la trouve échouée sur une rive, emballée dans du plastique. Et c'est un peu comme ça que ça a commencé. Et la raison pour laquelle Twin Peaks a aussi fonctionné, on parle beaucoup de David Lynch parce que c'est lui qui a aussi eu cette grosse influence visuelle, et tous les éléments peut-être les plus absurdes et les plus dark de Twin Peaks, on les attribue à Lynch. Mais en fait, Mark Frost, c'est celui qui connaissait le monde de la télé. Et sans lui, je pense que Twin Peaks aurait été un peu trop compliqué à gérer, parce que c'est lui qui a amené, en fait, l'écriture procédurale les codes de la télé et qui a permis un peu de cadrer.
Putain, 1h30 de pilote, il aurait fallu cadrer un petit peu plus.
Mais en fait, le pilote dure 1h30 aussi parce que Lynch considère que c'est un film. Donc ça explique aussi la durée. Et pour lui, Twin Peaks, c'est le pilote. Donc il y avait une grosse influence télévisuelle qui est venue se mélanger au côté très cinématographique de Lynch. Et notamment, il y avait cette idée de subvertir un petit peu les codes du soap et de s'amuser de ce qui passait à la télé à l'époque. D'ailleurs, tu le verras dans de futurs épisodes, mais il y a une mise en abîme, ce que d'ailleurs d'autres séries ont fait récemment.
Ah,
mais
une autre série.
Voilà, où ils regardent Invitation to Love, qui est un soap. Et dans le pilote, déjà, on a 6 histoires d'amour interdites.
Oui, mais pour moi, c'est ça quand je dis quand c'est camp. C'est-à-dire qu'il y a une distance ironique et une prise de distance et un regard un peu... Il y a un clin d'œil dans le regard, quoi. Enfin, oui. Tu vois, c'est complice et tout ça, sur un genre qui est considéré comme un genre...
un peu désuet.
Et voire un peu un genre pas du tout prestigieux, quoi.
Ouais, c'est ça. Mais en même temps, c'est aussi ça qui fait que Twin Peaks fonctionne, parce que en fait... C'est aussi ça qui va tenir le spectateur, c'est de suivre les triangles amoureux, de savoir qui a couché avec qui, qui va se mettre avec qui.
Ah ouais ? Ah ouais, vraiment, leurs histoires d'amour là. Mais parce que justement, j'étais là, mais pff, ils s'embrassent avec la musique derrière et tout ça. J'étais là, moi, je veux juste savoir qui a tué Laura Palmer. Je suis là pour ça, en fait. Soyons efficaces.
Je comprends. Mais en tout cas, pour moi, c'est ça qui fait aussi le succès de la série. C'est qu'on a cet élément soap qui est à la fois moqueur et ironique, comme tu le dis, et en même temps qui fonctionne parce que moi, je me prends au jeu et qui rajoute un côté un peu plus léger dans une série qui, si elle n'avait pas ces éléments-là, serait extrêmement sombre. Et voilà, c'est le côté un peu procédural, un peu télévisuel classique qui va faire de Twin Peaks le mélange qu'elle est, parce que c'est quand même une série qui est un peu inclassable.
Mais c'est marrant parce que j'ai lu le conducteur et j'avais vu que tu avais marqué, on a quand même au moins 6 histoires d'amour interdites. J'étais ah bon. Et après, en revoyant, j'étais ah ouais, j'avais même pas noté en fait, tu vois. Enfin, pour moi, c'était vraiment pas le cœur.
Mais parce que pour moi, c'est parce que c'est bien écrit et que ça s'imbrique complètement dans l'intrigue, c'est-à-dire qu'on n'y fait pas forcément attention, ça vient pas faire tâche. Mais c'est vrai que bah, on a Laura Palmer qui était avec Bobby, mais qui était aussi avec James. James qui se met aussi avec Donna. On a aussi
Shelly et
voilà, le shérif et la meuf. On a Shelly et Bobby qui était avec Laura Palmer. On a Norma, la serveuse du diner, oui, qui est avec le garagiste.
J'adore la femme du garagiste avec son...
Nadine.
Ouais, je savais pas son nom, mais elle a le même
Maybine.
Un cache-œil comme Jean-Marie Le Pen.
Oui, ou comme le capitaine Crochet. Chacun ses références.
Et elle joue avec les rideaux. J'étais là. Elle a l'air marrante aussi.
On aura l'occasion d'en reparler. Bon, la question à 1 million après ce pilote. Tu as plein de suspects, mais à ton avis, si tu devais parier de l'argent dessus, qui a tué Laura Palmer ?
C'est compliqué, hein. Moi, je vais aller très loin. Je vais dire le père de Donna.
OK. Il est médecin légiste. D'ailleurs, c'est lui qui vient examiner et qui est donc fait partie des premiers à être très choqué par la mort de Laura, puisqu'il sait ce que ça représente pour sa fille.
Oui, d'ailleurs, j'avais pas compris ça. Mais oui, maintenant, je comprends. Non, non, mais je sais pas. Je trouve qu'il est trop lax dans son éducation de sa fille. Il y a un moment, sa fille disparaît au milieu de la nuit. Bobby et le mec de sa fille arrivent et on voit très bien qu'ils sont, numéro un, en état d'ébriété, en train de conduire, et qu'en plus, c'est des petits voyous.
Marie, en fait, c'est Clint Eastwood, quoi. C'est vraiment dégager de ma pelouse, quoi.
Et le mec, il leur dit où est sa fille ? Il dit, elle est sûrement à Roadhouse ou je sais pas où. Aller la chercher. J'étais là, mais t'es fou, quoi. Enfin, d'où tu indiques à ces deux petits cons où est ta fille ? Ça, j'ai pas trouvé ça très, très clair. Après, ça peut être son père à elle aussi. Parce que souvent, hein, dans les affaires comme ça, c'est souvent quelqu'un de très proche de la famille. Je dirais, a priori, que c'est l'assistant du shérif qui pleure. Voilà. J'en reviens à lui.
On note ça. D'ailleurs, bah, l'enquête commence déjà dans le pilote. Il y a pas mal d'indices qui s'accumulent. Il va y en avoir d'autres. Mais on a donc le journal intime de Laura qui a examiné, où il trouve a priori de la cocaïne dedans. Cooper trouve sous l'ongle de Laura...
Ça m'a dégoûté, ça.
Ouais. La lettre R. Et donc, il pense connecter ce meurtre à un autre meurtre. C'est pour ça qu'il a été appelé sur cette affaire, parce qu'il pense que ça pourrait être une affaire plus large avec un serial killer, puisqu'il avait trouvé une autre lettre sous un ongle d'une autre femme tuée. Il y a le collier avec le cœur divisé en deux.
Ouais.
Et il y a ce petit papier qu'il trouve à la fin, avec écrit en rouge « Firewalk with me ».
Ah ouais, ça, j'ai pas relevé. C'est quand qu'il fait ça ?
Il trouve, en fait, l'endroit où Laura aurait été retenue avant d'être tuée. D'ailleurs, avec une autre fille qui est retrouvée, elle, et qui ensuite est amenée à l'hôpital.
Ouais, ça m'a fait faire
« Plot twist, qui s'appelle Ronette Pulaski. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres victimes et qu'il n'y a pas que Laura Palmer. Donc, « Firewalk with me », ça t'inspire rien pour l'instant ?
Je sais pas, on dirait une chanson de Elvis, mais honnêtement, à part ça.
Fire, walk with me.
Voilà. C'est censé m'inspirer quelque chose. C'est un poème de Dylan Thomas. Je sais pas, j'essaie de creuser, mais vraiment, je vois pas quoi. Enfin.
Ok, je note.
Mais pourquoi c'est censé. Ton attitude veut dire que. Enfin, je sais pas.
Ouais. Bah, on verra. Non, mais ce n'est que le pilote.
Ok.
Si tu devais donner une note ou un degré de compréhension à cet épisode, de je comprends tout à. Il y a une femme avec une bûche qui se balade et tout le monde trouve ça normal. Tu te situes où sur l'échelle de la compréhension ?
Je comprends tout. Enfin, okay. Je crois, apparemment, je n'ai pas compris Fire Walk With Me, donc je pense que je ne comprends pas tout. Mais pour l'instant, en tout cas, j'ai l'impression de tout comprendre. Je suis l'intrigue, il n'y a pas de problème. Hein.
Très bien. Mais je pense que tu suivras. Et il faut rassurer les gens, c'est vraiment très compréhensible. Qui est ton MVP pour cet épisode, puisqu'on va faire revenir la tradition du MVP, c'est-à-dire le personnage qu'on a préféré, qui a un peu gagné cet épisode ?
Bah, c'est Lucie. Très clairement, c'est la meilleure, quoi. Dans chaque scène où elle est, elle brille. Elle est incroyable. C'est qui ton MVP, toi ?
Moi, mon MVP, c'est à la 20e minute à peu près, ils sont dans les couloirs du lycée et il y a un mec qui est juste en train de refermer son casier et qui s'éloigne de son casier en faisant la danse du robot comme
ça. Ah oui, c'est vrai. Il y a aussi une fille qui court à travers la cour en criant à un moment. Et on ne sait pas si c'est à cause de ça ou pas.
Alors ça, il y a beaucoup de choses, tu verras dans Twin Peaks, il y a beaucoup de théories Reddit et de trucs qui ont été interprétés qui ne sont pas vraiment censés être interprétés ou compris. Mais pour moi, cette fille qui crie dans la cour, c'est un signe annonciateur de la noirceur qui s'approche et qui plane sur Twin Peaks.
Waouh.
La meilleure réplique de l'épisode ?
Alors, ma réplique préférée, j'ai pas trouvé des répliques très drôles, mais par contre, j'ai adoré à un moment Agent Cooper. Bobby est en train de dire que c'est pas lui qui l'a tué ou je sais pas quoi. Enfin, il fait un peu sa comédie d'alerté, quoi. Et l'agent Cooper lui dit « You didn't love her anyway ». Et là, j'étais là « Waouh ».
Ouais.
Ça, c'est du lourd. C'est un mic drop, quoi.
C'est enfin, clair. Et ça montre encore une fois qu'il comprend très, bien. Oui. Voilà, il a beaucoup de perception des autres. Moi aussi, ma réplique préférée, c'est une réplique de Cooper. Puisque tu l'as dit, il parle souvent dans son dictaphone à Diane. Et il y a un moment où ils viennent d'analyser plein d'indices très importants. Et il prend son dictaphone et il attrape la boîte de lapins en chocolat et il dit
« Diane, I'm holding in my hand a small box of chocolate bunnies. »
Diane, je suis en train de tenir une boîte de lapins en chocolat d'une manière très sérieuse. Et on ne sait pas pourquoi c'est important qu'ils disent à Diane qu'il est en train de tenir cette boîte de chocolat, mais j'adore cette réplique parce que pour moi, c'est ça les petites touches d'absurdité que j'aime beaucoup dans Twin Peaks et qui font toute la saveur du personnage de Cooper aussi. C'est qu'il est un peu perchose quand même.
Ouais.
Si tu n'étais pas forcé pour ce podcast à regarder la suite de Twin Peaks, est-ce qu'à ce stade-là, tu aurais continué ou pas ?
Je me serais arrêtée au bout de 10 minutes. Je vais être honnête. Je vais être très, très honnête.
Mon Dieu.
Ouais, je me serais vraiment arrêtée au milieu du pilote. Enfin, même pas au milieu, mais vraiment, j'aurais lâché, c'est sûr.
Ah ouais ?
Oui, sûr et certain. Il n'y a pas de doute.
Ah, ta sentence est terrible. Bon, pour le prochain épisode de ce podcast, tu vas devoir regarder 3 épisodes de Twin Peaks. Comment tu le vis ?
Ben, en fait, je le vis plutôt bien parce que j'ai hâte de débriefer, en fait. C'est plus ce qui vient après. C'est nos discussions qui sont précieuses, oui. Tu vois. Et du coup, j'ai vraiment hâte de ça. Et donc, pour moi, c'est juste quelque chose qu'il faut traverser hein, pour pouvoir après en parler.
On va passer aux prédictions. L'épisode se termine sur Sarah Palmer, la mère de Laura, qui est toute seule dans son salon, qui voit ce plan terrifiant d'un ventilateur actionné et qui voit quelque chose, on ne sait pas quoi, et qui crie.
Ah, j'avais pas compris.
T'avais pas compris quoi ?
Mais j'avais compris qu'elle criait, mais pour moi, c'était qu'elle avait une espèce de vision, parce qu'en même temps, on voit quelqu'un qui récupère le cœur dans la forêt. Et pour moi, c'est plus juste qu'elle avait une espèce d'intuition ou un truc comme ça, quoi. J'avais pas l'impression qu'elle voyait quelque chose, j'avais l'impression qu'elle était juste. Elle va pas bien, quoi.
Alors, tu peux l'interpréter comme ça. L'avantage avec Twin Peaks, c'est que tu peux interpréter ce que tu veux comme ça.
J'espère qu'il va y avoir une réponse si elle voit quelque chose.
Je t'invite à revoir ce plan. Et à faire pause, et à zoomer, et à regarder...
Dans l'iris de la... de faire comme l'agent Cooper.
Et à regarder dans le miroir qui est situé derrière Sarah Palmer.
C'est vrai ?
Ouais. Oh. Donc l'épisode se termine sur Sarah Palmer qui voit quelque chose, on ne sait pas quoi, qui hurle. Elle hurle beaucoup dans cet épisode d'ailleurs. Et en parallèle, tu l'as dit, on voit une main mystérieuse qui est dans la forêt, qui attrape la moitié du collier de Laura, la moitié qui a disparu.
Qui avait été enterrée au préalable par James et Donna.
Exactement. Quelles sont tes prédictions pour la suite ?
Waouh ! Ah non, mais là, tu m'as complètement retourné le cerveau avec le truc du miroir. Donc, ça va être...
Te prends pas trop la tête, c'est pas si important que ça. Mais
en plus, maintenant, j'ai peur de regarder, en fait. Parce que ce genre de truc, enfin, ça fait peur, ça. Mes prédictions. Je l'ai dit, je pense vraiment que Audrey va faire son petit jeu de séductrice junior à Dale Cooper et qu'il va pas du tout savoir comment gérer ça parce que, à mon avis, je pense pas qu'il soit très doué avec les femmes. De ce que je vois, je pense qu'il est plus doué avec les arbres et avec Diane sur son dictaphone. Je pense qu'il y a une espèce de drama qui se trame avec la sœur de l'ancien propriétaire de la scierie qui est mort et qui...
Catherine Martel.
Qui espionne donc la très belle propriétaire, la veuve qui donc sort avec le shérif. Donc je pense qu'il va y avoir du drama avec ça. Et ensuite, au niveau des autres prédictions, honnêtement, j'en sais rien. Non, mais vraiment, je sais pas qui a tué Laura Palmer. Je peux pas te dire.
Est-ce que t'as vu qui a tué Pamela Rose?
Non.
Du coup, tu sais que c'est un...
Ah, c'est un...
Ah, c'est une parodie de Twin Peaks, en fait.
Ah, c'est vrai? C'est le truc avec Cadet Olivier, là?
Oui. Enfin, ouais. Ça vient de qui a tué Laura Palmer.
Ah. Wow, ok.
Tu vas avoir accès à tout un nouveau pan de la culture, maintenant, grâce à Twin Peaks. Ouais. D'autres prédictions ou...
Je pense que l'assistant du shérif va à nouveau pleurer. Et puis que la scierie va reprendre son travail, quand même. Mmh. Et j'espère qu'ils vont aller plus souvent dans le diner. Et je sais pas, je pense que la meuf avec le cache-œil, elle va pas être commode avec, avec la meuf du diner.
Et alors, tu l'as évoqué un petit peu, mais est-ce que tu penses que le mystère de la mort de Laura Palmer va être résolu?
Ce que tu m'as dit la dernière fois m'a laissé penser qu'il n'y aurait pas de résolution. Ce qui serait un petit peu frustrant, même si j'ai dit dans un autre podcast que j'aimais bien ça, mais quand même. Et quelqu'un, dont je tairai le nom, m'a dit, alors qu'elle n'a pas regardé Twin Peaks, qu'elle a juste regardé le premier épisode, elle m'a dit « Ah, mais on m'a dit que c'était pas résolu avant le premier épisode de la deuxième saison. » Donc bon, voilà. Et après, elle m'a dit tout de suite « Ah non, mais j'en sais rien, en fait, je sais pas du tout. Je sais plus si c'est... » Mais quand je lui ai dit « Non, mais il faut pas me spoiler, donc je sais pas si...
Mmh. » Ok. Merci Marie pour ton courage.
Écoute, merci Anaïs de m'avoir ouvert la porte vers ce nouvel univers.
Merci tout le monde de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Amis sur slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée. Notre prochain épisode couvrira le début de la saison 1 jusqu'à l'épisode 4 inclus. N'hésitez pas à suivre la série en même temps que nous et à partager vos impressions sur les réseaux sociaux.
Rassure-moi, les épisodes sont plus courts.
Oui.
D'accord.
Et si vous êtes fan de séries, n'oubliez pas de vous abonner à notre autre podcast, Pic TV, où on analyse l'actualité des séries. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire, ou vous pouvez nous hyper auprès de tous vos amis. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.
Amis est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours. Production éditoriale, réalisation et montage, Aurélie Rodriguez. Musique, Victor Benamou. Alors Aurélie, notre productrice, vient de m'amener son ordinateur avec la scène... final, pour que je puisse voir ce qu'il y a dans ce miroir, parce que je tiens plus. J'ai l'impression que j'ai vu dans d'autres trucs, elle. Attends. Attends, je remets. Attends. Il y a une femme. Il y a un visage. Il y a un visage, c'est qui? Ah putain, cette série, en fait, c'est The Ring, quoi. Attends, c'est qui le visage? Elle est brune. C'est peut-être celle qui était à l'hôpital et qui est sortie, ou je sais pas. Enfin bon, bref, je sais pas, mais elle est brune avec les cheveux longs. Mais attends, je regarde s'il y a d'autres. Ah non, mais ça y est, là, je suis hooked. Je veux tout regarder.
Yes, c'est bon.
Ah non, c'est génial, ça. Attends. Bon, ça va, la musique qui reprend encore.